1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Alors, bien remis de cette première émission de cette nouvelle saison?
Ouais, c'était cool, j'ai adoré cette parenthèse enchantée.
Bon, voilà. Alors, je voudrais bien qu'on la prolonge, mais avec le sujet dont on va traiter cette semaine, on risque de tomber un peu de haut, non?
En fait, c'est une émission, on va dire, chronologique dans le temps, puisqu'on a eu la parenthèse enchantée, et puis là, on a la douche froide.
Ouais. J'allais dire le retour à la réalité, mais en fait,
non.
Il ne faut pas dire ça.
C'est pas la réalité.
Enfin... Non, exactement, voilà. Mais il faut qu'on... qu'on ne modère même pas, qu'on se dise qu'il y a d'autres possibles, enfin... C'est ce qu'on dit régulièrement à SLP. Mais là, c'est vrai qu'il y a un tel choc, un tel contraste entre ce qu'on a pu vivre et partager cet été et cette rentrée politique qui nous hallucine tous, pas dans le bon sens. Alors, moi, finalement, je m'aperçois que je conserve quand même... une sorte d'élan et une énergie qui a été acquise, accumulée dans le courant de l'été. Parce qu'en fait, par rapport à ce qu'on a évoqué la semaine dernière, non seulement c'est cette parenthèse des Jeux Olympiques a montré qu'il y avait autre chose de possible, elle a peut-être réouvert l'espace des possibles, mais elle a fait plus que le réouvrir parce qu'elle a concrétisé l'impossible.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'était concret, on l'a tous vécu. Et moi, par exemple, ça a changé ma façon d'appréhender les gens.
Ouais.
La façon dont je leur parle. Mmh. Ça a changé plein de trucs là-dedans, tu vois. Parce qu'à la fois, je me dis, alors, ce qu'on a vécu, on l'a vraiment vécu. Tu vois, c'est pas juste une idée. C'est ça, j'ai vraiment vécu. Donc, c'est possible. Donc, on va continuer, on va faire...
Ouais.
En sorte que ça continue, en fait.
Alors, par contre, ce qui ne nous facilite pas la vie, c'est le champ politique.
C'est clair.
Et alors, ce que je te propose, dans un premier temps, c'est qu'on écoute un son qui est relativement récent, que j'ai extrait de l'émission En Société, qui est sur France Télévisions. Ils ont fait un reportage sur Macron et sa façon... d'exercer le pouvoir. Et je voulais qu'on en écoute un extrait pour bien se rendre compte à quel point ça fait contraste, c'est totalement antinomique avec ce qu'on a évoqué la semaine dernière autour des Jeux Olympiques, des cérémonies d'ouverture, parce que c'est... on a évoqué le « nous », faire des choses ensemble, partager des choses ensemble, et la façon dont... Macron, entre autres, exerce le pouvoir et exactement à l'opposé.
À l'opposé.
On d'ailleurs, écoute. Ouais.
Non, je disais d'ailleurs, il était hué pour les cérémonies paralympiques, même.
Et il continue à l'être.
Et c'était tout un stade qu'il a hué. C'était pas juste des opposants politiques, c'était quand même tout à fait. Un stade.
On écoute.
Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Madame Catherine Vautrin.
Ce que prépare le gouvernement.
Madame Anne Genetet.
C'est totalement différent de la ligne stratégique qui a été engagée et conduite par le président depuis 7 ans.
Ce premier
Conseil des ministres, il a lieu dans le jardin d'hiver de l'Élysée.
Le président avait l'air plutôt souriant, alors qu'en réalité, il est absolument furieux.
Le président a été installé face à son premier ministre, Michel Barnier, et entre Didier Migaud et Bruno Retailleau.
Et c'est vrai que cette mise en scène est assez rigolote, presque un peu ubuesque, puisque Bruno Retailleau vient de la droite dure selon la gauche, et à l'inverse, Didier Migaud, l'ancien président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, vient de la gauche.
C'est pas du tout un gouvernement macronien.
Emmanuel Macron sait très bien qu'en politique, la gestion du temps, c'est la clé. Donc à mon avis, dans un premier temps, il va les laisser faire, se mettre très en retrait. C'est des ministres qui, pour l'instant, ont peu de poids politique. Et ça, il est évident que ça l'arrange d'avoir des ministres, pour le moment, faibles, entre guillemets, parce que c'est l'assurance pour lui de pouvoir garder la main.
Et aujourd'hui, il va se concentrer sur l'international et sur des questions de valeurs, ou voilà, beaucoup plus en surplomb. Il est rapidement parti à l'étranger pour le Conseil général de l'ONU à New York.
Vous allez bien ?
Je m'exprime ici au nom d'un pays qui n'oubliera jamais ce dont les nations sont capables quand elles sont unies. La liberté, le progrès et la paix, et l'espoir.
Je pense que très vite, il va être rattrapé par ces vieux démons et qu'il ne va pas pouvoir s'empêcher de mettre les mains dans le cambouis.
D'abord parce qu'il a toujours voulu tout maîtriser, tout contrôler.
Sa philosophie de l'action, c'est qu'il a été élu, il a été réélu, et à partir de là, il considère que c'est à lui de prendre la plupart ou toutes les décisions.
Emmanuel Macron qui arrive seul au milieu de cette cour Napoléon.
Emmanuel Macron, il a théorisé le fait d'être Jupiter.
Emmanuel Macron marche symboliquement vers son destin.
Après cette prise de pouvoir solitaire, les deux quinquennats ont quand même été émaillés de grands moments de prise de décision solitaire.
Les Français considèrent que c'est lui qui est responsable de ce qui va bien et de ce qui va mal, donc autant le gérer soi-même.
Je viens d'expliquer le raisonnement sur l'ISF. On peut ne pas le partager. On le partage pas. Mais très bien, moi je vous explique pourquoi. Je considère que ce n'est pas un cadeau. Je vous explique pourquoi je l'ai fait. Maintenant, je l'ai fait de manière démocratique. Je l'ai présenté en tant que candidat. J'ai été élu démocratiquement. Et dans une démocratie, les désaccords se purgent au moment de l'élection.
Emmanuel Macron a toujours eu ce fantasme d'une présidence sans Premier ministre. Le Premier ministre, non pas en tant que personne, c'est pas Elisabeth Borne, Jean Castex, même Gabriel Attal qui pose problème à Emmanuel Macron. C'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui va gouverner à sa place, prendre la lumière à sa place. Ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'il soit seul sur la photo, en réalité.
Voilà, il faut qu'il soit seul.
Il faut qu'il soit seul.
Ouais,
voilà.
Faut qu'il se gouverne tout seul.
Ouais.
Et qu'il arrête de nous faire chier.
Ouais, qu'il aille dans son, je sais pas, dans sa maison, dans son appart, je sais pas ce qu'il a, mais qu'il reste tout seul.
Alors.
Et qu'il gouverne son chien, son chat, parce qu'il veut les panneaux.
Mais la question, c'est comment on se débarrasse, alors pas seulement de Macron, mais de ces pratiques égotiques du pouvoir qui, en fait, il y a un certain nombre de gens qui accèdent au pouvoir et qui du coup ça leur confère une forme de pouvoir et d'autorité et ils l'exercent sans condition quoi. On leur a donné le pouvoir, donc en fait ils en usent et ils en abusent à leur guise. Comment on sort de ça? C'est alors je pose une question.
Comment tu veux que je réponde à ça?
J'attends pas la réponse de ta part. Mais il faut peut-être qu'on s'interroge. Alors non seulement aux gens à qui on donne le pouvoir, mais après, forcément, ça nous renvoie à nos institutions, à leur façon de fonctionner et comment on fait évoluer ça, quoi.
Peut-être qu'on est en train de vivre justement une évolution avec une assemblée qui est complètement morcelée en trois groupes à peu près égaux, qui fait que en fait le président il peut plus s'appuyer sur une majorité, donc il est obligé de composer en fait. Alors c'est dangereux parce que du coup un petit groupe peut prendre le pouvoir, c'est ce qui se passe là actuellement, hein, 47 députés et on a un premier ministre et un gouvernement, ce qui est quand même hallucinant, mais c'est ce qui se passe en Espagne où Pedro Sanchez il est dans les mains des indépendantistes, enfin c'est pas forcément une bonne solution, mais en tout cas ça remet le pouvoir au Parlement et pas forcément à l'Élysée ou à Matignon, qui sont du coup obligés de composer.
Ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi, tu vois, je le remets en perspective avec ce qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire qu'à un moment, on perd de vue aussi dans cet objectif des gens qui sont au pouvoir de conserver le pouvoir à tout prix, à n'importe quelle fin, on perd en fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on fait société ensemble et ce vers quoi on veut aller. Et ça, c'est des questions qui sont finalement qui sont pas posées, qui sont hors champ. Si on raisonnait à un moment, si véritablement on était en capacité de se poser ces questions-là, peut-être qu'effectivement on pourrait fonctionner différemment. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que j'ai, c'est que tout le jeu politique en place, tout est fait pour que ces questions-là, qui sont essentielles, qui sont premières, on évite de les poser.
Mais on est dans une société du temps court aussi. Donc c'est dur de... Parce que ce que tu évoques là, ça veut dire qu'on a passé du temps à y réfléchir. Et puis ça veut dire qu'on met en place des choses pour dans 20, 30 ans. Ce qui n'existe pas actuellement. On ne met rien en place pour dans 20, 30 ans.
Problème.
On met en place pour dans 4 ans, parce qu'on est élu pour 5 ans.
Et même, est-ce qu'on met en place même des choses... tu vois, à 4 ou 5 ans, parce que aujourd'hui, par rapport aux urgences environnementales auxquelles on doit faire face, j'ai même l'impression que ces sujets-là qui sont essentiels, on les évacue particulièrement avec ce nouveau gouvernement. C'est juste
ça n'existe
incroyable,
plus, hein,
quoi.
Ça n'existe plus.
Bon, une petite en guise de pause musicale, une petite perfusion estivale, et après on revient à notre sujet, je te propose.
Waouh, ça aussi, ça calme.
Ouais, ça calme, comme tu dis. Bon, le Night Call version olympique. Ouais. Avec Kavinsky, Angèle et Phoenix.
Yes, ça c'était génial.
Ouais,
aussi,
beau souvenir aussi.
Le génie français dans ce qu'il a de plus moderne, ouais. C'était incroyable. Mmh. Et on va revenir dans la douche froide et on va parler d'un autre génie français.
Ah non, je te vois venir.
En fait, on va écouter un son qu'a fait Clément Viktorovitch. Qui est quelqu'un que j'aime bien, parce que j'aime bien ses analyses, en fait. Je trouve qu'il...
Je partage.
Il est... c'est des analyses qui sont toujours argumentées à partir de faits. Mm-hmm. Et ça, c'est vachement important, je trouve. C'est-à-dire, c'est pas des idées reçues, c'est pas des idées préconçues, mm-hmm. c'est vraiment...
Des démonstrations.
Des démonstrations. J'écoute ce qui se dit, à partir de là, j'en tire des conclusions, mais à partir de ce qui se dit. Mm-hmm. Et là, en fait, il nous parle de Bruno Retailleau, notre...
Ah, oh, ça fait mal ça, Ah oui, ça fait
attends,
mal.
Attends, notre ministre de l'Intérieur, ça fait encore plus mal.
Ah, ça fait très très mal.
Et de sa remise en cause de l'état de droit, ce qui est quand même hallucinant. Et c'est d'autant plus hallucinant que donc on a un ministre de l'Intérieur qui vient de la droite, hein. Il n'est pas au Rassemblement National, non. Il est de la droite, il est LR, qui remet en cause l'état de droit, qui est quand même le fondement de toute démocratie, et qui permet à Marine Le Pen de dire à côté...
De calmer ses ardeurs.
Oh, non, mais Marine Le Pen qui dit, non, mais moi, l'état de droit, je ne remets pas ça en cause.
Ouais, hein. Ouais, mais c'est ça qui est terrible.
C'est hallucinant. Mmh. C'est-à-dire, il est plus à droite que le Front National.
Ouais.
Enfin, bon. On écoute Victor... Clément.
Clément.
Allez.
L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. C'est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Pour comprendre ce que veut dire Bruno Retailleau, il faut revenir sur le concept d'état de droit lui-même. L'état de droit, c'est deux choses. C'est d'une part, un état qui respecte les règles qu'il a lui-même édicté, et c'est d'autre part le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des individus. Quand Bruno Retailleau te dit, certes, il y a une hiérarchie des normes, mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. La hiérarchie des normes, c'est la manière complexe de dire un état qui se soumet aux règles qu'il édicte, un état qui n'est pas dans l'arbitraire. Le respect de la hiérarchie des normes, c'est l'idée que les décrets du gouvernement doivent respecter les lois et que les lois doivent respecter la Constitution. Quand Bruno Retailleau te dit « Certes, il y a la hiérarchie des normes, mais Bruno Retailleau est en train de remettre en cause ce qui fonde la garantie contre l'arbitraire de l'État. Remettre en cause la hiérarchie des normes, c'est autoriser le gouvernement à prendre des actes contraires à la loi, voire contraires à la Constitution, s'il estime que c'est dans l'intérêt des individus ou que c'est du moins dans le sens de ce que désire le peuple souverain. » Bruno Retailleau, est en train de dire « Nous pourrons nous mettre dans l'illégalité, nous pourrons piétiner ce que dit la loi, voire même ce que dit la Constitution, si nous estimons que c'est ce que veut le peuple souverain et si nous estimons que c'est conforme à l'intérêt général. » Il va même plus loin, parce que comme je vous le disais, l'état de droit, ça n'est pas seulement la hiérarchie des normes. L'état de droit, c'est aussi et même avant tout le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des individus. Bruno Retailleau dit quelque chose de très précis. L'État devrait pouvoir opprimer les droits fondamentaux d'une partie des individus si c'est ce que la majorité des Françaises et des Français désirent. Ça porte un nom, comme je vous le dis souvent, c'est le fascisme. Bruno Retailleau est un fasciste. Voilà l'homme qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, l'état de droit, il est garanti en France par une institution, qui est le Conseil constitutionnel, bien sûr. Si une loi est votée qui contrevient à une liberté fondamentale garantie par la Constitution, cette loi sera censurée par le Conseil constitutionnel. Quand Bruno Retailleau nous dit « L'état de droit n'est pas intangible ni sacré, il devrait être possible d'y contrevenir dès lors que c'est conforme à la volonté de ce qu'il appelle le peuple souverain. » Ce qu'il est en train de dire, c'est concrètement qu'il faut supprimer ou à tout le moins vider de son pouvoir le Conseil constitutionnel. Bruno Retailleau, en ce sens, n'est pas isolé au sein des Républicains. Je vous rappelle quand même que Laurent Wauquiez, à l'époque, avait proposé que l'Assemblée nationale puisse, par un nouveau vote, outrepasser la censure du Conseil. Cette proposition que faisait Laurent Wauquiez à l'époque n'était rien d'autre que la proposition de pouvoir dépasser l'état de droit, n'était rien d'autre que l'idée que, dès lors qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour le décider, le peuple souverain devrait pouvoir opprimer les droits des minorités, et donc outrepasser la censure, la protection du Conseil constitutionnel. Et là, vous voyez que la pensée de Laurent Wauquiez, il y a quelques mois, rejoint la déclaration de Bruno Retailleau aujourd'hui. Les LR, en tout cas une partie d'entre eux, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, veulent tous les deux vider de son pouvoir le Conseil constitutionnel pour autoriser l'oppression des minorités par le vote de la majorité, en tout cas par le vote des députés à l'Assemblée nationale. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de vivre en direct par la voix de Bruno Retailleau, par la voix avant lui de Laurent Wauquiez. Nous sommes en train de vivre la préparation de l'opinion publique au vote dans le futur de lois qui pourraient être des lois emmenant la France sur une pente fasciste. Le débat public n'est pas anodin. Certes, bien sûr, ça n'est a priori pas le gouvernement Barnier qui va faire sauter les verrous de l'état de droit. Encore que, restons vigilants. Mais l'idée est en train de s'installer dans le débat public. On est en plein élargissement de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton qui dessine ce qui est dissible dans le débat public. La fenêtre d'Overton qui identifie ce que l'on peut dire sans être immédiatement frappé d'opprobre dans le débat public. Eh bien, cette fenêtre est en train à nouveau de s'élargir et, en l'occurrence, elle s'élargit à la position la plus grave qui soit, c'est-à-dire la suppression de l'état de droit, la bascule dans un monde fasciste. Par effet de simple exposition, nous sommes en train de nous habituer à l'hypothèse en France d'un gouvernement fasciste. C'est d'abord Laurent Wauquiez qui l'a dit, c'est aujourd'hui Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui l'affirme vigoureusement. Mais que se passera-t-il quand d'autres vont continuer d'en parler ? Que se passera-t-il quand demain, après-demain, après-après-demain, sur les plateaux de CNews, et puis ensuite peut-être pourquoi pas même sur les plateaux de BFM, puis de LCI, pourquoi pas même de France Info, que se passera-t-il quand de nombreux éditorialistes, polémistes, intervenant dans le débat public, continueront de faire proliférer cette idée, de la répéter ad nauseam, de dire, écoutez, l'état de droit c'est bien, mais ça n'est pas un totem, la volonté du peuple c'est tout, et la volonté du peuple devrait, si telle est précisément sa volonté, pouvoir opprimer les droits des minorités. Eh bien cette idée, à force d'être répétée, initialement tabou, elle est devenue choquante quand c'est Éric Zemmour qui a commencé à l'employer dans le débat public. De choquante, elle est devenue marginale quand c'était simplement Laurent Wauquiez qui seul plaidait en ce sens au moment du vote de la loi immigration. De marginale, elle est devenue minoritaire maintenant que ce sont certes Laurent Wauquiez, mais également Bruno Retailleau, également le Rassemblement National, qui ne le dit pas explicitement, mais qui en fait est sur la même ligne. Que se passera-t-il demain ? Quand de minoritaire, cette idée va s'imposer dans le débat public comme ordinaire, familière. Et puis de familière, peut-être va-t-elle devenir une idée de bon sens. Et le jour où cette idée sera de bon sens, qu'est-ce qui empêchera les Françaises et les Français d'élire président ou présidente de la République, un homme ou une femme qui portera clairement, sans avoir à trembler des genoux, l'idée de sortir de l'état de droit, c'est-à-dire de faire basculer la France dans le fascisme.
Là aussi, ça calme.
Ouais, ça calme. C'est hyper important, le travail de décryptage qu'il est en train de faire, parce que s'il n'y a pas des gens comme lui qui sont en capacité d'éclairer la plupart d'entre nous sur les enjeux de tout ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément évident de l'appréhender. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
Oui, je suis d'accord. Déjà, quand on dit remise en cause de l'état de droit, on se doute bien que c'est un gros truc, l'état de droit, ouais. Mais on sait pas exactement ce que c'est. Et ce qui est intéressant justement dans le débat que ça a provoqué, c'est qu'on explique ce que c'est que l'état de droit. Tu vois, par exemple, la hiérarchisation des normes, on te dit ce mot-là, tu dis « c'est quoi ce truc ?» Et en fait, on t'explique, on te dit « ah ouais, en fait, ok, en effet, c'est évident qu'un maire prenne un arrêté complètement discriminatoire, contraire à la Constitution et tout ça, et fasse n'importe quoi. » C'était vite l'arbitraire, c'est issu de la Révolution, enfin tu vois, ça fait 200 ans qu'on construit tout ça.
Et après, ça pose plein de questions, parce qu'à un moment, effectivement, quand il évoque notamment le peuple souverain, mais en fait, qui est le peuple souverain ? Est-ce que c'est une majorité qui s'exprime ? Est-ce que c'est ça, le peuple souverain ? Parce que c'est ce qui semble sous-entendre avec cette possibilité, à un moment, de pouvoir remettre en question certains droits à certaines minorités parce que la majorité des gens ont décidé que... Mais est-ce que c'est ça le peuple souverain? Ça
prête à interprétation. Les autres font partie du peuple et
exactement,
sont pas souverains.
Exactement.
Mais c'est surtout que cet état de droit, cette constitution, puisqu'en fait c'est ça le socle de l'état de droit, la constitution, elle a été votée par référendum, elle a été acceptée par référendum, donc par le peuple souverain version Retailleau. C'est lui qui a décidé de cette constitution, de ses règles et de ses normes.
Et après, je repense à, encore une fois, ce qu'on a vécu cet été, à ce que évoquait Patrick Boucheron quand il revenait sur le tableau de la cérémonie d'ouverture avec Aya Nakamura et la garde républicaine. Et comment, en fait, dans la chorégraphie de ce tableau, à un moment, la garde républicaine entourait Aya Nakamura et, en fait, la protégeait. D'une discrimination dont elle est victime. Et à un moment, effectivement, le rôle de la République, c'est de protéger ses citoyens, et plus particulièrement les citoyens éventuellement discriminés ou les plus...
De faire attention à eux parce qu'ils existent, ils sont là, et son rôle, c'est de protéger tout le monde.
Tout le monde, quel que soit, effectivement... sa couleur, son orientation sexuelle,
son genre,
sa classe sociale, voilà. Et du coup, effectivement, on doit protéger qui, a priori, notamment les minorités discriminées.
Mm-hmm. Oui, c'est logiquement c'est eux qui ont le plus à souffrir.
Tout à fait.
Bien sûr.
Ouais. Donc, tu vois, moi je me dis que par rapport à ce qu'on a vécu au deuxième tour des législatives, où il y a eu quand même un phénomène de front républicain, je me dis qu'il y a quand même matière à espérer. Je pense que reste une majorité des Français qui s'expriment, qui vont voter, ou d'ailleurs qui n'y vont pas parce qu'ils ont perdu espoir dans le vote, le suffrage exprimé. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sur... tu vois, cette idée-là d'ouverture, d'accueil, je pense qu'il y a énormément de gens, effectivement, qui ne vont plus voter, mais pour autant, qui partagent ces valeurs-là.
Oui, bien sûr. Quand il y a besoin, ils y vont.
Quand il y a besoin, voilà. Ils y vont ou ils sont capables de faire preuve d'ouverture d'esprit et de capacité d'accueil.
La question qui se pose, c'est jusqu'à quand? Parce qu'après ce qu'on vient de voir... ça fait quand même deux fois où le peuple s'exprime, on va dire.
Ouais.
Hein, en 2005, le non à la Constitution européenne. Et là, cet été, où en fait, on leur dit fuck, quoi, en gros. Hein.
Ouais, tout à fait.
Donc, jusqu'à quand le peuple va continuer à s'exprimer?
Eh bien, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut tout faire pour qu'à la fois, il y ait des espaces d'échange, d'analyse avec des gens comme Clément Viktorovitch, qui sont capables, en fait, d'analyser et d'éclairer. Toute la difficulté, c'est que aujourd'hui, il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux, mais finalement, c'est sur ces espaces-là, beaucoup plus que dans les médias classiques ou même dans le service public, où finalement, on a des éclaireurs de cette envergure-là.
Il y en a partout et il ne faut pas négliger, ce n'est pas les mêmes personnes hein, qui vont sur les réseaux sociaux et qui vont regarder les émissions politiques à la télé. Et ce qu'il faut, c'est aller dans les deux. Et Viktorovitch, il va dans les deux. Hein. On le retrouve sur France 5, on le retrouve, tu vois.
Alors,
et on le retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais, ça vient de YouTube.
Mais ce qui est super intéressant, par exemple,
vient d'écouter.
C'est un cas d'école, Clément Viktorovitch, parce que moi, je le suis effectivement depuis quelques temps sur tous les médias sur lesquels, effectivement, il peut s'exprimer. Mais alors... Quand il est sur des médias, on va dire, plus tradis, sa parole est beaucoup plus édulcorée. Il fait le taf, hein.
Oui, bien sûr, clairement. Il fait quand même le taf, mais de façon plus édulcorée. Parce qu'il ne s'adresse pas au même public.
C'est ça.
Et il n'a certainement pas la même liberté non plus.
Mais il faut aller, du coup, le regarder partout. On est pratiquement au bout de l'émission.
Ouais.
Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas de quoi on va traiter.
Je ne sais pas non plus. De joie et de bonne humeur.
Ouais. Entre autres choses. En tous les cas, même si c'est des sujets graves, on gardera notre bonne humeur et notre optimisme.
Yes.
Allez, ciao.
On se retrouve
la semaine prochaine. Bye.
revoir.